Qui est victorieux du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? C'est par ces mots que l'apôtre nous avait quittés il y a 2 semaines, en remettant en avant l'essentiel du message qu'il tenait à rappeler à ses frères et sœurs. Jésus, le Christ, est le Fils de Dieu. C'est ici que se trouve la motivation de sa lettre, écrite, je le rappelle, pour dénoncer une hérésie galopante dans l'Église de l'époque, que le Christ n'était pas parfaitement homme et parfaitement Dieu. Cela ne doit donc pas nous surprendre, vu l'importance du sujet et des enjeux, qu'en terminant sa lettre, parce qu'on arrive tout doucement à la fin, Jean désire nous repasser les plats, encore une fois. Et je reprends donc le texte dans le chapitre 5 de son épître, les versets 6 à 8, pour commencer. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Un peu énigmatique, hein, à nouveau. Et Jean est un pêcheur. Vous imaginez si Jésus avait choisi des théologiens comme disciples ? Petite parenthèse. Ce Jésus dont Jean nous a dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il donne la vie à quiconque place sa foi en lui, est donc venu avec de l'eau et du sang. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, dans notre contexte de négation de l'humanité de Jésus, ça signifie une chose bien précise, que Jésus est né, a été baptisé, ça c'est pour l'eau, et est mort sur la croix, ça c'est pour le sang. Il a vécu et est mort comme n'importe quel homme, hormis bien entendu le sens de sa vie et de sa mort, qui refait, vous l'aurez compris, un sens tout à fait unique. Ma mort n'aura jamais le sens de celle de Jésus. Je sais que vous êtes déçus, mais il faudra faire avec. Celui qui est venu, dit Jean. Alors ce participe passé montre que l'apôtre pense au fait historique de l'apparition de Jésus, que Jésus est entré dans l'histoire à un moment donné de celle-ci. C'est ce fait qu'exprime toujours le verbe venir dans la langue de notre apôtre. Donc les mots avec de l'eau et du sang sont donc des faits qui ont marqué bel et bien la carrière terrestre du Christ. Ils désignent donc le baptême et la mort sur la croix de notre Seigneur. Et si Jean insiste lourdement sur le fait que Jésus est venu non avec l'eau seulement, mais avec le sang, c'est qu'une pensée très présente à son époque prétendait que le Christ divin n'était venu sur Jésus qu'à son baptême et qu'il l'avait quitté avant la crucifixion, donc que la partie divine en Jésus, que Dieu était venu en Jésus sous la forme de l'Esprit à son baptême et qu'il l'avait quitté avant de subir la crucifixion. Jean va donc s'élever contre cette conception d'un Jésus désincarné et affirme que cette affirmation est contraire au témoignage de l'Esprit Saint lui-même. Pour le dire plus clairement encore, quiconque nie que le Christ est homme et Dieu ne possède pas l'Esprit Saint, dit Jean. Je sais bien que c'est cash, mais ce n'est pas moi, c'est Jean. Ces antéchrists, comme rappelez-vous, il les appelait dans le début de sa lettre, prétendaient donc qu'au moment du baptême, le Christ, le Fils de Dieu, s'était uni à l'homme Jésus, mais l'avait abandonné avant sa mort. L'apôtre affirme donc ici, au contraire, que le Fils de Dieu est bel et bien mort, que sa mort aussi bien que son baptême fait partie de l'œuvre messianique et que la foi qui nous sauve, c'est la foi au Fils de Dieu qui s'est solidarisé par son baptême avec notre humanité de pécheur et qui a donné pour elle sa vie sur la croix. Jean s'élève donc avec force contre cette conception qu'on retrouve encore aujourd'hui. On l'a toujours retrouvée tout au long de l'histoire de l'Église. Il s'élève donc avec force contre cette conception d'un Jésus amoindri et affirme que cette affirmation est donc contraire au témoignage que l'Esprit Saint rend au Christ. Paul, encore lui, exprimera cette même pensée dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Notre boulot, c'est de réconcilier le monde avec Dieu au travers de la mort du Christ et de sa résurrection. Autrement dit, Dieu n'a donc pas déserté la croix à aucun moment. La divinité du Christ ne l'a pas quitté à la croix. Ça épaissit le mystère, nous sommes bien d'accord. C'est bien pour ça que certains ont dit qu'il ne l'avait reçu qu'à son baptême et qu'il s'en était départi avant qu'il ne meure en croix. C'est plus facile à intégrer. Là, on dit Dieu était en croix aussi avec le Christ, avec son humanité. Ça complexifie la donne, mais est-ce que c'est vraiment un problème que Dieu soit aussi complexe que ça? Moi, ça aurait plutôt tendance à me rassurer. On a toujours tendance à ramener Dieu à notre échelle. C'est très humain, pour le rendre plus compréhensible. Il faut le laisser où il est, comme il est surtout, et le laisser lui nous enseigner ce qu'il est et comme il est. Alors ce que Jean affirme, on vous dit, enfin Jean il débloque, non, ce que Jean affirme, rappelez-vous, il l'a vu, il était au pied de la croix, c'était le seul mec d'ailleurs, rappelons-le, au pied de la croix. Certains féministes diront d'ailleurs que c'était son côté féminin qui était présent au pied de la croix. Ça c'est de la très mauvaise théologie. Il a d'ailleurs commencé sa lettre, rappelez-vous, en affirmant qu'il avait été témoin privilégié de la vie du Christ, qu'il l'avait vu. Et non seulement vu, qu'il l'avait aussi touché, et surtout qu'il l'avait entendu. Alors avec toute cette dimension que le verbe écouter ou entendre peut avoir dans la pensée hébraïque. Rappelez-vous, c'est le chemin Israël quand même. Écoute, c'est intéressant ça. Écoute, ô Israël, ton Dieu l'Éternel est un. Ça, c'est ce qui concerne l'homme Jésus. Pour ce qui est du Jésus divin, on peut s'appuyer sur le témoignage de Pierre. Lorsqu'il écrit dans sa deuxième lettre, « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. » De nos propres yeux. « Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue. » On retrouve cette dimension de voir et d'entendre. « Nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne et nous considérons comme d'autant plus certain la parole des prophètes. » Alors Pierre fait ici référence à un épisode, vous l'aurez sans doute reconnu, l'épisode de la Transfiguration, auquel Jean a également assisté. Il y a Pierre, Jacques et Jean qui sont présents lors de la Transfiguration, où Jésus est étincelant et commence à discuter avec Élie et Moïse. D'ailleurs, Jean est présent dans le « nous » qu'utilise Pierre ici. « Nous avons vu, nous avons entendu. » Qui ? Ben, moi, Pierre, moi, Jean et Jacques. Donc, en ce jour-là, ce n'est pas son humanité que Pierre, Jacques et Jean ont pu contempler. Ils n'ont pas pu contempler l'humanité de Jésus. Ils ont eu un aperçu de sa divinité. Et pourquoi Jésus leur donne cet aperçu ? Parce qu'il va mourir peu de temps après. Et il sait que la foi de ses disciples va flancher. Ils doivent conserver dans le cœur et dans l'esprit ce qu'ils ont vu à ce jour-là. Ça va les aider à passer ce temps terrible, ces deux jours, qui à mon avis fait plus de 24 heures dans leur cœur, où Jésus est mis en terre le vendredi et ressuscité le dimanche. Il y a le vendredi soir, il y a le samedi à passer. Quand tout votre monde s'écroule, deux jours, c'est énorme. C'est énorme. C'est donc un aperçu de sa divinité, de sa gloire, cette gloire qu'il a quittée pour venir par amour nous sauver. Alors, certains pourraient encore néanmoins répliquer qu'il ne s'agit ici que du témoignage d'homme. Donc, quelque part, sujet à caution. Bon, c'était que des hommes, Qu'à cela ne tienne, Jean va à présent faire appel à quelqu'un dont le témoignage sera beaucoup plus difficile à réfuter, puisqu'il s'agit du témoignage du Saint-Esprit. L'eau et le sang rendent témoignage au Fils de Dieu quant à son humanité, Mais l'Esprit aussi était présent et au baptême de Jésus et à sa mort à la croix. L'Esprit donc rend aussi témoignage de la réalité du Christ. Vous savez comme moi, il n'y a pas de conversion sans que l'Esprit Saint n'intervienne. C'est l'Esprit Saint qui convainc de mort et de péché. Et à la croix, l'un des deux hommes condamnés avec Jésus s'est bel et bien converti. Un des deux brigands, des deux larrons, des deux assassins, parce que c'était probablement des zélotes, hein, un des deux hommes présents avec Jésus s'est converti. Preuve que l'Esprit Saint était présent à la croix. De plus, rappelons-nous que le ministère terrestre de Jésus fut placé dès son baptême sous l'égide du Saint-Esprit. Dès que Jésus sort de l'eau lors de son baptême, l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe, descend sur le Christ. Et juste après, c'est l'Esprit Saint qui intime, j'avais envie de dire, l'ordre à Jésus d'aller au désert pour y être tenté. C'est donc Dieu lui-même, en tant qu'Esprit, qui rend témoignage à Jésus. Mais Dieu, en tant que Père, le fait aussi en étant présent au baptême de son Fils. Il n'y a pas que l'Esprit Saint qui est présent, il y a le Père. On reprend le texte. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit, comme au moment de la transfiguration d'ailleurs. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » C'est le Père qui s'exprime. Sont donc présents au moment du baptême de Jésus l'Esprit Saint et le Père, dont la Trinité est là. Le Père est également présent lors de la mort de son Fils sur la croix. Je reprends ce passage dans l'Évangile de Luc. Rappelez-vous, la dernière phrase qu'il prononce dans l'Évangile de Luc, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » On ne remet pas son esprit entre les mains de quelqu'un qui n'est pas là. C'est aussi bête que ça. Si vous agonisez sous votre lit, je serai là pour recevoir votre dernière confession. Mais si je reçois cette confession, c'est que je suis là. Ça va, ça ne va pas trop dur pour vous? Ça va, c'est bon? Jésus lui-même exprimera le fait que le Père, les prophètes, les Écritures et ses œuvres lui rendent témoignage. Alors, relisez, on ne va pas prendre le texte, ce serait trop long. Il y a quand même plus d'une vingtaine de versets. Relisez le chapitre 5 de l'Évangile de Jean, surtout la fin de... Oui, chapitre 5 de l'Évangile de Jean, surtout la fin du chapitre. Où Jésus dit, le Père rend témoignage de moi, mes œuvres rendent témoignage de moi, l'Esprit Saint rend témoignage, tout ça rend témoignage de moi et vous ne croyez toujours pas, quoi. Et vous demandez toujours que je fasse des trucs en plus. Enfin, c'est pas comment ça que c'est dit, mais c'est l'idée. Donc ce témoignage de l'Esprit, dit Jean, est venu par les prophètes de l'Ancien Testament. Moïse en tête, le premier prophète dans cet testament qui rend témoignage au Christ qui doit venir, c'est Moïse lui-même. Et par le dernier d'entre eux, comme ça la boucle est bouclée, par Jean le Baptiste, qui va baptiser Jésus et va donc rendre témoignage de la mission de celui qui est venu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il a encore été attesté par le témoignage de l'histoire qui est contenu dans ces deux dimensions, donc de l'eau et du sang. S'il a été baptisé et s'il est mort sur une croix, c'est tout simplement parce qu'il existait historiquement parlant. Même si certains nient encore et toujours la réalité historique de Jésus de Nazareth. Il n'y en a plus beaucoup, mais je pense à un qui vient de faire un livre sur le sujet. Je fais référence au philosophe Michel Onfray, qui ferait mieux de faire de la philosophie et d'arrêter d'essayer de faire de la théologie. Hein, chacun son truc. Hein. Et il n'y a pas grand-chose d'étonnant à ça. Enfin, lui, il nie dans ce livre totalement l'existence historique de Jésus. Alors, ces arguments, alors, je tire ça d'un article du Christianisme Aujourd'hui. Les arguments qu'il avance pour prouver ce qu'il dit sont bien plus étonnants, par contre. Le philosophe relève que dans les évangiles, on peut observer Jésus en train de manger, mais jamais déféquer. Il en tire donc la conclusion, et je cite, « Ce corps n'est pas corporel, c'est un anticorps, le corps d'un ange, autrement dit, le corps de quelqu'un qui n'existe pas. Donc c'est un mythe. Donc Jésus n'a jamais existé. » avec ce genre de syllogisme, on va loin. Parce que dans la guerre des Gaules, Jules César, à ma connaissance, César à aucun moment ne dit « et là, je partis déféquer ». Mais personne ne songerait à mettre l'existence de Jules en question ou en doute. Hein. Non, mais allez, franchement, allez. Et ça se vend. Hein. Autrement dit, Jésus, pour Onfray, n'est qu'une idée. D'ailleurs, c'est le titre du livre. Création ou existence ou peu importe d'une idée. Je ne me rappelle plus exactement le titre parce que je ne compte pas lire le livre, vous aurez compris. Les journées n'ayant que 24 heures et j'ai approximativement 62 bouquins encore à lire. Je ne vais pas m'amuser à lire ça. Alors chacun appréciera, les historiens compris. Même les plus grands historiens athées et spécialisés en l'Antiquité ne remettent plus en doute l'existence historique de Jésus. Du reste, ils remettent tout en doute à côté de ça, bien sûr. Pour eux, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu, etc. Ils sont pas croyants, on peut comprendre. Mais historiquement, ils ne nient, enfin, plus aucun historien ne nie l'existence historique de Jésus. Le baptême et la crucifixion du Christ ont donc été avérés par de nombreux témoins. Nous n'avons donc aucune raison de douter du témoignage des hommes qui y ont assisté, et encore moins de celui plus grand encore de Dieu lui-même, puisque c'est l'Esprit qui rend témoignage de tout cela, dit l'apôtre Jean. Il remet surtout le témoignage de l'Esprit en avant. Alors, il faut peut-être préciser quand même que Jean entend par l'Esprit, avec un E majuscule, non pas la vie spirituelle du croyant, mais l'Esprit de Dieu tel qu'il a agi dès la Pentecôte, dans le cœur des disciples de Christ pour les régénérer. Ça va tout changer. Hein. Pierre qui se planque depuis 3 jours avec les autres, il reçoit l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait ? Mes frères, il prêche. Hein ? Donc si je n'avais pas l'Esprit Saint, je ne serais pas en train de faire ce que je suis en train de faire. Donc moi, le fait de prêcher, ça prouve que j'ai l'Esprit Saint. Ça pouvait être aussi simple. En faisant de la vie et de la mort de leur sauveur les moyens de produire en eux une vie nouvelle. C'est donc l'Esprit Saint qui produit cette nouvelle vie dans le cœur des disciples et qui leur permet de prêcher, de faire tout ce qu'ils ont fait pendant plusieurs années avant de mourir, pour la plupart d'entre eux, martyrs. Donc en créant cette nouvelle vie et en l'entretenant dans le cœur des disciples, l'Esprit rend témoignage de l'efficacité de l'œuvre du Christ. Donc il atteste à travers les disciples de l'existence du Christ et de son salut, le salut qu'il apporte aux yeux du monde. Et en même temps, il ne fait pas que ça. Il n'est pas simplement en nous pour que nous évangélisions le monde. Ça, c'est un pan de la dynamique. Mais aussi pour que la foi, notre foi, et celle des disciples de l'époque, soit édifiée, soit construite, soit consolidée, soit enraciné en nous, sur le fondement non plus d'un témoignage extérieur, mais le fondement inébranlable d'une expérience intime. Si aujourd'hui je vous demande « tu crois en Dieu ?», vous me direz « oui ». Pourquoi ? Parce que vous l'expérimentez. Dans la réponse que vous me donnerez, vous n'allez pas simplement faire de la théologie, vous allez simplement partager avec moi la réalité de votre foi et de la réalité de cette présence du Saint-Esprit en vous. Vous n'en doutez pas de cette présence, normalement. Et, dit Jean, ce témoignage est rendu avec puissance et est irrésistible parce que, dit-il, l'Esprit est la vérité et on ne peut pas aller contre la vérité. Ou alors on est de mauvaise foi. L'Esprit est cette vérité comme Christ l'est lui-même en tant qu'il est la vie de Dieu manifestée et communiquée aux hommes et par conséquent, cette réalité de la vie réelle profonde que Dieu seul peut donner est la réalité, constitue la réalité suprême. Vous rendez compte le privilège qu'on a quand même. C'est incroyable. Hein, on continue, on va encore faire quand même 3 ou 4 versets, si vous le voulez bien. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons, que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. Forcément. Si on ne croit pas ce que Dieu dit, on fait de Dieu un menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. C'est celui où on peut la trouver, si vous préférez. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le Fils de Dieu, dans la conception des apôtres, dans la conception du Nouveau Testament, un Christ pleinement Dieu, pleinement homme. Si vous avez un Christ purement humain, vous n'avez pas ce Christ-là. Et si vous croyez en un Christ qui n'est qu'une forme d'humanité, donc des monophysites, il est en fait uniquement Dieu, vous n'avez pas le bon Christ non plus. C'est ce que Jean veut dire. Vous savez sans doute que d'après une disposition de la loi de Moïse, à laquelle Jean pensait sans doute en parlant des trois témoins, et qu'il rappelle donc positivement ici, le témoignage des hommes rendu de manière solennelle en justice était reçu lorsque les déclarations de deux ou trois témoins concordaient. Il fallait donc, pour le dire autrement, d'après la loi de Moïse, que deux ou trois témoins attestent d'un fait ou d'une situation pour que ce fait ou situation soit avéré exact et juste et vrai. Or, si le témoignage des hommes était supposé emporter l'adhésion, que dire du témoignage de Dieu qu'il a rendu à son Fils. Autrement dit, Dieu a rendu témoignage à Dieu. Le Père a rendu témoignage au Fils, le Saint-Esprit a rendu témoignage au Fils. Et durant tout son ministère, le Fils a rendu témoignage au Père. Alors dans ces versets, Jean va exprimer une chose, me semble-t-il, très interpellante. C'est que celui ou celle qui reçoit le témoignage de Dieu, eh bien, ce témoignage vient littéralement faire partie de lui. Interpellant ça quand même. Celui qui croit au Fils de Dieu n'a pas seulement le témoignage que Dieu a rendu au Sauveur à son baptême, ça ne serait pas une sorte de théorie, mais il a ce témoignage au-dedans de lui, autrement dit vivant, intime, personnel. Il fait l'expérience du témoignage que le Saint-Esprit rend à Jésus comme sauveur. Vous savez, vous êtes sûr que le Christ est votre sauveur parce que l'Esprit-Saint en permanence en vous, comme une sorte de petite rivière qui coule doucement, rend en permanence ce témoignage en vous. Pour ceux qui penseraient qu'ils n'ont pas l'impression que l'Esprit-Saint fasse grand-chose dans leur vie. Ah oui, sans blague. Mais il n'aime pas les feux d'artifice, il fait ça très discrètement, le Saint-Esprit. Si vous voulez, le truc qui dégage, c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Il aime bien. Donc la personne qui reçoit ce témoignage vivant du Saint-Esprit, ce témoignage que l'Esprit rend à Jésus-Christ comme sauveur, aucune opposition ne saurait l'ébranler, aucun doute ne pourrait faire défaillir sa foi. Alors, toutes les autres preuves peuvent avoir de leur utilité pour consolider la foi, bien sûr. Mais la personne en question n'en a plus besoin pour son salut, car il ne peut plus douter de ce qu'il expérimente lui-même au quotidien. Ça s'appelle la sanctification, en fait. Vous êtes de plus en plus convaincu de ce que vous croyez depuis le départ, depuis le premier jour, le jour X de votre conversion. Et c'est parce qu'il expérimente cette réalité au quotidien qu'il sait que c'est le cas également pour les frères et sœurs auquel il écrit que Paul peut dire, rappelez-vous en Romains 8,16, « L'Esprit Saint même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Paul dit, « L'Esprit vous dit que vous êtes des enfants de Dieu. » Ben c'est vrai, non? Vous doutez que vous êtes un enfant de Dieu? Levez la main. Alors c'est se mettre en contradiction directe avec Dieu, dit Jean, le faire menteur que de ne pas croire après avoir connu le témoignage qu'il a rendu à son Fils. Cette incrédulité volontaire est un péché qui entraîne la condamnation de Dieu. Autrement dit, ces personnes-là, il y en a, on en connaît, moi j'en ai ma famille, enfin, je faisais partie de ceux-là avant forcément de rencontrer Dieu, ben, ces personnes-là, ils passeront devant Dieu et puis ils passeront devant l'amour de Dieu surtout, et puis je suis certain que ça se passera bien quand même. Voilà. Même si l'amour, vous savez, un père ou une mère qui aime son enfant, il l'aime et il va parfois taper, enfin pas physiquement, mais taper très dur ou dissimuler très durement s'il pense que son enfant a besoin d'avoir une solide dose de remise en question. L'amour, ça ne fait pas toujours du bien au moment où ça se passe. Nous sommes d'accord. Alors, Dieu étant amour, je ne dis pas que ça sera très agréable pour ces personnes-là, mais je pense qu'à la fin, ça se passera bien, parce que la pédagogie de Dieu, elle est toujours restauratrice. Toujours, elle restaure. L'objectif de Dieu, c'est toujours restaurer, même quand il punit. Comme un père. Un père, quand il punit, c'est pour restaurer son fils ou sa fille, le faire ou la faire grandir. Ben, je ferme la parenthèse. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit à Nicodème lors de leur entretien secret de nuit. Rappelez, hein, qu'on est tous Jean 3,16, hein, Dieu a tant aimé le monde. Ça, ce verset-là, on le connaît par cœur, mais et comme c'est le verset le plus important de la Bible pour les protestants évangéliques, ils zappent tout ce qui vient après. Ça, c'est une grave erreur. Parce qu'après, il dit quoi, Jésus, à Nicodème, « Je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. » Mais, il continue, « Mais celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé, car il ne croit pas en moi et en celui qui m'a envoyé. Il ne croit pas en l'amour de Dieu pour lui. » Donc, il est jugé. Quelqu'un qui ne croit pas en l'amour de Dieu, il vit sa vie ici déjà sans Dieu. Mais c'est terrible. Enfin, nous, on sait ce que c'est terrible de vivre sans Dieu, parce que nous avons Dieu. Nous pouvons faire la différence entre les deux. La personne en question, elle est en souffrance perpétuelle parce qu'elle n'a pas Dieu dans sa vie. Elle est déjà jugée à travers ça. Si vous cherchez l'enfer, cherchez-le sur la terre déjà. Commencez par là. Il y a des gens qui vivent des vies, mais infernales, hein, dans le sens premier du terme. Donc ce témoignage dont Jean indique le magnifique contenu n'est pas autre donc que celui dont il a parlé jusqu'ici. La différence, la seule, même s'il n'y a pas de différence en fait, c'est qu'ici, il le considère d'un autre point de vue, en l'occurrence à partir de l'expérience que les croyants en font. Nous avons chacun, chacune, une expérience du salut. Et pour tous ceux qui font cette expérience, le témoignage que Dieu rend est irrécusable, évident, parce qu'il porte sur un fait actuellement accompli en eux. Vous êtes à Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, c'est fait, c'est bon. Bingo, jackpot. Et ça grandit en vous, ça, cette certitude. Dieu nous a donné, et c'est un passé, Dieu nous a donné la vie éternelle. Alors, ce qui est bien avec la vie éternelle, c'est qu'il nous la donne dans le passé, mais on la vit encore aujourd'hui et plus tard. Parce que Dieu est un éternel présent, si je peux dire ça comme ça. Même si le présent en hébreu n'existe pas vraiment. Enfin, ça veut pas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais soit. Mais comme cette vie éternelle est tout entière et exclusivement dans le Fils de Dieu, en Jésus, il en résulte nécessairement, vous l'aurez compris, que quiconque n'a pas le Fils de Dieu, ne croit pas dans le Fils de Dieu, ne saurait pas avoir la vie dont Jean parle. Évidemment. Cette vie nouvelle ne vient que par le Fils et procède du Père par lui. Ça, c'est mon côté orthodoxe. Partant de là, ne pas croire dans le Fils, ne pas placer sa foi dans le Fils, c'est manifester qu'on ne possède pas la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.